Et si le vent vous emmenait ailleurs ? Terre des vents, le premier roman de Bruno Lottin. Une fresque poétique, un voyage intérieur, une ode à la liberté. En librairie le 10 juillet aux éditions Campanile. Une exclusivité Blue Radio. Littéralement, votre rendez-vous littéraire. Olivier Vizari sur Blue Radio.
Aujourd'hui, nous recevons l'auteur de Terre des Vents, un roman poétique et initiatique qui nous transporte entre désert, lumière et art sacré. Bonjour Bruno Lottin.
Bonjour Olivier.
Qu'est-ce qui vous a inspiré Terre des Vents ?
C'est la volonté de... Je n'ai jamais été capable de peindre ou de dessiner. Et en fait, la seule façon que j'avais de montrer les tableaux que j'imaginais, c'était de les écrire. Donc c'est ce que j'ai fait en fait. Et lorsque on discutait tout à l'heure, vous me disiez comme ça, l'artiste.
Oui,
ça m'a fait plaisir parce que en fait, effectivement, c'est un peu ce qu'il y a dans ce livre. C'est un livre d'images aussi.
C'est quelque chose qui vous manquait avant ?
Ah oui, tout à fait, oui. tout à fait.
Est-ce que vous avez imaginé d'abord le monde ou le personnage de Tico ?
Je pense que c'est le monde d'abord que j'ai imaginé. Plus que le personnage, j'avais envie effectivement de faire une espèce d'utopie où tout était un petit peu centré autour de l'art, mais surtout du rapport, du moins la possibilité que l'art donne de se transcender un peu et d'aller un petit peu vers les choses spirituelles.
Donc ce livre vous ressemble ?
Oui, certainement, oui, ça quelque c'est part. Évident, bien sûr.
Est-ce qu'on peut justement y lire une forme de récit de soi ?
Le récit, serait effectivement de ça par rapport à l'art, ouais. D'une façon générale, ce rapport que j'ai à l'art qui est effectivement de m'émerveiller, pas pouvoir le faire moi-même parce que bon, effectivement, je dessine comme un cochon, hein, donc je préférais de loin l'écrire. Et ce sont avant tout vraiment des images mentales que j'ai essayé de reproduire dans ce livre, voilà.
Alors, pourquoi avoir choisi de placer votre histoire dans un monde imaginaire ? Vraiment imaginaire, pour le coup.
En fait, c'est espérer qu'il existe quelque part, peut-être là-haut,
que ce monde ne soit pas vraiment imaginaire, finalement.
Qui soit celle-là, voilà, c'est ça, oui.
Le roman semble s'adresser à tous les âges. Est-ce un choix conscient ou est-ce que c'était plutôt au fil de l'écriture que ça s'est fait ?
C'est plutôt au fil de l'écriture, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à écrire, je me suis dit, bon, peut-être que je n'écrirai qu'un seul livre dans ma vie, au moins que ce soit un livre qui soit le plus complet possible à ce niveau-là. Donc j'ai mis le maximum de choses que je pouvais y mettre, même s'il n'est pas très, très gros en termes de pages, c'est pas un format énorme. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de choses dedans.
Tout ce que vous voulez y mettre, y est. Et justement, on va y revenir après. Peut-être que ce sera peut-être pas le dernier, justement. Comment avez-vous imaginé la carte vivante, les villes et les paysages ?
J'ai tout imaginé à partir du désert. En fait, le désert est dans ce livre, je dirais, un personnage central. Hein, c'est-à-dire que ce désert, à la fois, il isole complètement les villes et il permet de faire en sorte qu'il y a une union aussi de ces villes-là. C'est-à-dire que chaque ville va avoir...
On parle du désert d'Arava. Hein.
Voilà, ouais, chaque ville va avoir un petit peu une spécificité. Alors il y en a qui sont plus tournés vers la mer, il y en a qui sont plus tournés vers la spiritualité. Fine, là où va aller le héros, est une ville qui est complètement tournée vers l'art. Là d'où il vient, c'est plutôt, une espèce de centre commercial, quoi. Voilà, enfin une une ville qui vit autour du commerce. Donc chaque ville va avoir effectivement sa spécificité.
Et donc en fait, le désert d'Arava, c'est plutôt pour vous, ça représente plutôt une sorte d'intersection entre
ce monde-là. Voilà, il y a ça et il faut pas se cacher, le désert d'Arava, c'est aussi son monde intérieur, c'est aussi ça, c'est aussi soi-même, c'est-à-dire que c'est à cet endroit-là que l'on va pouvoir se retrouver. Le héros à la fin va passer plusieurs jours dans le désert, un petit peu comme une traversée du désert quelque part, et il va pouvoir vraiment reprendre un petit peu tout l'acquis de tout ce qu'il a acquis pendant son périple, pendant sa quête initiatique. Et c'est ça, en fait.
Et oui, parce que justement, on va revenir sur la géographie dans la narration, dans votre narration. On parle du décor, des épreuves. Elle est utile à quoi, cette géographie, dans ce livre?
Le désert permet de... Enfin, c'est vraiment un espace hors du temps. À l'intérieur de la Terre des Vents, c'est un espace hors du temps. Les gens vont par des caravanes, avec leurs caravanes, ils vont aller d'une cité à l'autre. Mais lorsqu'ils sont dans le désert, ils sont complètement isolés. C'est-à-dire que ils ne peuvent avoir aucun lien avec qui que ce soit en dehors de la caravane. Et donc ça va être vraiment comment dirais-je l'espace intérieur. C'est le moment où on se retrouve à l'intérieur de soi-même et où on peut s'examiner complètement, quoi. Voilà, aussi.
L'architecture, les pigments et les constellations, par exemple, vous avez une écriture très sensorielle. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est pour vous intuitif?
Ah non, c'est intuitif vraiment.
Ouais, c'est vraiment intuitif.
C'est-à-dire, c'est comme ça que je sentais de l'écrire et je pouvais pas l'écrire autrement, quoi. Voilà.
Il y a ce besoin. On va parler des personnages, Bruno. Oui. Tico traverse une véritable transformation. Est-ce un héros ou pour vous peut-être un disciple?
C'est plutôt un héros. Hein. C'est plutôt un héros. C'est-à-dire que bon, c'est quand même le personnage central de l'ouvrage. Mais ce qui est très important aussi, c'est la muse qu'il rencontre. C'est Erilia. Donc Erilia qui va lui apporter aussi la possibilité de dépasser un petit peu ce qu'il faisait sur le plan peinture, grâce à sa poésie, grâce à ce qu'elle lui apporte en plus, et l'amour bien évidemment, parce que c'est aussi une histoire d'amour.
Justement, on parle d'amour, justement, il y a aussi la figure paternelle qui devrait normalement n'être qu'amour, et qui là est presque un... Est-ce que, d'ailleurs, c'est peut-être une question, est-ce que c'est un obstacle ou un modèle, ou est-ce que justement il y a une blessure qui survit après?
Vous parlez de Nubor, en fait.
Je parle du père,
il veut pas effectivement que son fils devienne artiste, il veut absolument que son fils fasse la même chose que lui, c'est-à-dire comment monter des caravanes, reprendre le commerce, etc. et tout. Bon, et puis finalement il se trouve qu'il va voir Nubor, qui va devenir le mentor, le maître, le maître d'apprentissage de Tico, et c'est Nubor qui lui dit comme ça, qui lui fait comprendre que finalement si Tico il veut suivre cette voie, il faut qu'il le laisse suivre cette voie, quoi. Voilà. Alors bon, effectivement, on peut trouver des correspondances certainement avec ce que j'ai vécu, mais enfin bon, c'est pas vraiment le but, quoi.
C'était pas volontaire,
c'est pas vraiment,
mais souvent ce qui est involontaire est peut-être une révélation, et surtout dans
autre chose, je vais vous livrer un petit secret. Il y en a d'autres dans le livre, qu'il faut découvrir au fur et à mesure. Mais Nubor, c'est un anagramme.
D'accord. De.
De.
De. De. Je veux savoir.
De Bruno.
De Bruno. Ouais. Non, mais je préfère le préciser, comme ça on a la réponse exacte. Oui. Non, mais c'est vrai.
Alors il y en a un deuxième.
Il y a quand même une information là-dessus. Alors, donc, est-ce que c'est vous le maître peintre?
Alors, disons que moi je suis un petit peu tous les personnages à la fois. Mais Bon, oui, peut-être, effectivement. Alors, il y en a un deuxième aussi, si vous voulez, que je vais vous livrer. C'est, à un moment donné, Tycho va aller visiter une exposition. Mmh. Cette exposition, c'est un peintre qui a commencé par faire des choses très figuratives et puis ça marchait pas, bon, etc. et tout. Et à un moment donné, il change et il change complètement de voie. Hein, en fait, l'anagramme, là, c'est celui de Picasso.
D'accord.
Et ça correspond à ce que j'avais pu ressentir lorsque j'étais allé au musée Picasso à Paris il y a ça très longtemps puisqu'il a été refait depuis. Mm-hmm. Et dans sa première formule, en fait, le musée était organisé vraiment sur de façon chronologique. Et donc, on commençait par les premières peintures de Picasso qui étaient très figuratives et vraiment, bon, à l'âge de 15 ou 16 ans, c'était extraordinaire. C'est déjà. Et petit à petit, on le voit dériver et aller vers l'abstrait. Hein. Et donc, j'ai essayé, dans cette séquence-là, de reproduire un petit peu ce que j'ai ressenti lorsque j'étais allé là-bas. Et puis, peut-être, effectivement, ce que le peintre a vécu aussi, puisque au début, ça marchait pas non plus. Hein, il faut dire ce qui est.
Bien sûr. Voilà. Erilia est peut-être le personnage le plus singulier en fait du roman. C'est un peu la muse, l'amante, l'initiatrice.
Oui.
C'est ça?
Absolument, tout à fait, oui. Donc
elle a un rôle très important, finalement.
Voilà, donc elle a un rôle très très important et en même temps, bon, elle est complètement... Il y a un amour qui est fusionnel entre les deux. C'est-à-dire que quand ils vont se balader dans le jardin d'Emerald, j'ai voulu faire une séquence où vraiment, ça montrait une espèce d'amour qui était complet, où les deux personnages... jouent ensemble, sont heureux à chaque instant d'être ensemble et créent aussi ensemble d'ailleurs.
Alors vous avez presque répondu à ma prochaine question.
Merci.
La relation entre Tycho et Erilia, est-ce qu'elle est pour vous simplement amoureuse ou est-ce qu'elle est un peu mystique aussi?
Ils vont être effectivement tous les deux portés par la même envie et la même ambition quelque part, de reproduire et de montrer au travers de la beauté de leurs œuvres la beauté de l'univers quelque part. Mm-hmm. Et de toucher le spectateur en fait par cet émerveillement que l'on espère avoir quand on regarde une œuvre d'art, quoi. Voilà.
Et Taipei, le guide du désert, semble détenir un savoir profond. A-t-il une fonction prophétique selon vous?
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que comment Taipei, celui qui connaît le désert, qui l'arpente sans arrêt, et donc qui connaît effectivement le côté mystique effectivement du désert, puisqu'il y a une dimension mystique dans le désert. Mmh. Le désert dévoile un certain nombre de choses à ceux qu'il considère en mesure de l'entendre, voilà, et donc Taipei en est un, bien évidemment. Voilà.
C'est très mystique là aussi. Dans Terre des Vents, l'art semble être une religion. Est-ce que c'est votre vision à vous?
Ah oui, tout à fait. Et j'ai repris la seule phrase qui n'est pas de moi du livre. Mmh. C'est une phrase effectivement que j'ai empruntée à Picasso justement, et qui est l'art est une religion. Lui, c'est comme ça qu'il le considérait. L'art est une religion dont le but est d'élever l'âme.
Oui, parce qu'on on parle justement de proportions, de lumière divine, de pigments sacrés.
Oui.
Le lien entre peinture et spiritualité, pardon, va très loin finalement.
Oui, tout à fait. Mais on retrouve ça à la fois effectivement dans l'art, mais dans un certain nombre de pratiques qui sont sous-entendues dans le livre, et notamment la chimie. Hein, l'alchimie se retrouve est évoquée au travers effectivement de la préparation des pigments. Mmh. Elle est évoquée aussi dans le poème qu'a fait Aurélia. Oui. Et on le retrouve aussi dans le jardin d'Emerald. Ouais.
Et alors, qu'est-ce que l'irisium exactement ? Est-ce que c'est une invention ou un symbole ?
Alors, l'irisium, au départ, je pensais donner un rôle le plus central à cette matière. Puis finalement, elle ne réapparaît pas dans le livre. C'est comme ça.
C'est voilà. Comme ça, oui.
C'est le livre, voilà.
C'est le thème qui est complet, mais à l'intérieur, vous avez cet irisium qui détient simplement une petite partie.
Mais c'est certain.
Non, mais elle est importante quand même, cette
partie-là. Voilà, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je disais, au début, je pensais plus utiliser cette matière-là, les pouvoirs de cette matière. Oui. Puis finalement, je n'ai pas fait.
Mais elle reste aboutie quand même, et c'est ça qui donne un petit peu... Toujours le côté mystique. Voilà. Le livre semble traversé par une sorte de tension entre matérialisme et élévation, oui. Justement. Est-ce que c'était un enjeu pour vous, Bruno Lottin ?
Ah, tout à fait. De toute façon, l'art, quelque part, c'est une... Bon, alors même si effectivement il y a tout un volet mercantile effectivement, mais là c'est une façon justement de dépasser le matérialisme pour moi. Donc lorsqu'on évoque quelque chose, alors là c'est différentes formes. Alors bon, on parle beaucoup de peinture parce que c'est le plus facile à transcrire en fait en mots.
Mais l'art, l'art en peinture, c'est du matériel.
Oui. Oui, tout à fait. Mais disons que l'artiste, lui, je pense va être beaucoup plus attiré
par l'intention, en fait. C'est l'intention qui va compter dans l'art et pas le résultat finalement. Pas le résultat par rapport. Ouais.
On peut voir ça par exemple dans un certain nombre de tableaux. Je prends un exemple tout bête, hein. Par exemple la scène qu'a fait Dali.
Oui.
Bon, il y a vraiment une dimension mystique dans ce tableau qui est absolument dingue, l'artiste l'a reproduit d'une façon mais extraordinaire. Ou bien cet autre tableau où on voit une crucifixion en plongée, en contre-plongée. C'est vrai qu'effectivement c'est une vision,
c'est la vision de l'artiste, bien sûr, c'est vrai. Comment vous pensez que les lecteurs vont réagir à ce voyage intérieur? Est-ce que vous pensez que ça va être votre souhait de départ en écrivant ce livre qui va compter le plus, ou est-ce que c'est chacun qui va mettre un petit peu de sa propre personnalité dedans?
Je pense que ça va être la deuxième solution, la deuxième chose, parce qu'en fait, comme il y a plusieurs choses dans le livre, il y a d'un côté une histoire d'amour, il y a de l'autre côté un apprentissage.
Et voilà.
J'ai pu voir que certaines personnes vont plus être touchées par l'une ou l'autre des choses. Mais bon, c'est parfait.
Pensez-vous donc écrire une suite à Terre des Vents, et peut-être même d'ailleurs, on ne sait jamais, peut-être d'un autre point de vue, du point de vue d'un autre personnage.
J'ai déjà écrit quelques chapitres d'une suite, effectivement.
Donc on aura la suite.
Mais
c'est une
à
info,
nouveau, ça. Voilà, ça c'est une info, ça se coupe. Mais à nouveau, comme pour Terre des Vents, je veux surprendre. Donc ce sera pas comme ça se passera toujours dans la Terre des Vents, ça sera toujours avec les mêmes personnages, mais ce sera très différent, très très différent.
Vous voyez-vous plus comme un conteur, un philosophe ou un peintre avec des mots ?
Un peintre avec des mots. Alors, c'est indubitablement, c'est ce que je disais au début, ouais. C'est-à-dire que bon, je sais pas peindre, moi je parle d'écrire, composer.
Ouais.
Voilà. C'est
presque du visuel, en fait. Vous arrivez à le visualiser, en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et justement, c'est un lien avec ma prochaine question. C'est le monde de Terre des Vents est justement très visuel. Est-ce que vous rêvez d'une adaptation visuelle ou sonore de votre roman?
Alors, j'ai beaucoup de connaissances qui sont dans la bande dessinée, mm-hmm. et plusieurs fois on m'a dit comme ça, mais attends, ça ferait une très très belle bande dessinée.
En bande dessinée, ce serait incroyable, c'est
et
vrai.
Et j'ai un peu du mal à le visualiser en bande dessinée, ouais. parce que l'intérêt d'ailleurs d'être dans un monde imaginaire, c'est que j'ai pu introduire de la magie. Et donc la magie, elle permet de faire beaucoup beaucoup de choses. Qui serait assez difficilement qu'on pourrait assez difficilement transcrire dans un univers
dessin, oui.
Je crois. Voilà.
Ouais, donc même finalement, en dessin animé ou.
Ah, pourquoi pas, il y a certains films qui sont absolument qui vont un petit peu dans ce sens-là. Par exemple, toute la séquence d'introduction du film de Besson sur Valérian.
Oui, c'est vrai.
On se retrouve dans des univers qui correspondent effectivement.
Mais du coup, il faudrait pour ça les déterminer en fait, que chacun les détermine à sa propre volonté, de sa propre imagination, ou alors que vous donniez simplement une précision là-dessus et qu'on suive en fait votre intention à vous, vu que c'est vous l'auteur. Donc pourquoi pas.
Oui, pourquoi pas. Oui.
Non, moi je dis ça parce qu'on sait jamais, ça pourrait être intéressant.
Non, mais ce sera. Et donc c'est ça, c'est un peu la voie, c'est-à-dire que comment un film comme celui de Valérian, par exemple, est un mix entre un véritable film avec des personnages, mm-hmm. et des choses qui ont été faites uniquement par ordinateur, oui. et avec une liberté.
Les effets spéciaux.
Qui est beaucoup plus large, et ça c'est s'il y avait une possibilité d'adaptation, ça ressemblerait à ça, oui.
Ça laisse entrevoir peut-être une possibilité justement d'adaptation. Ouais. Bon, pour finir, que souhaitez-vous que l'on retienne réellement et concrètement de Terre des Vents?
Je veux pas donner de lignes ou d'idées préconçues. En fait, ce que je voudrais qu'on retienne, effectivement, c'est que pour la personne, c'est la personne qui le lit, ça lui ouvre des horizons. C'est-à-dire, j'ai donné quelques clés et c'est à chacun de prendre celle qui l'intéresse et de faire son propre voyage et d'aller plus loin avec ça, quoi, voilà. Ouais. Mais c'est effectivement le sens du livre, oui.
Terre des Vents n'est pas seulement un roman, c'est un chemin, celui d'un jeune homme vers lui-même, celui d'un lecteur vers l'invisible. Merci à Bruno Lottin pour ce souffle partagé et à vous qui nous écoutez. Souvenez-vous, parfois, un seul trait de pinceau peut dévoiler un autre monde.
Littéralement, votre rendez-vous littéraire. Olivier Vizari sur Blue Radio. Et si le vent vous emmenait ailleurs ? Terre des Vents, le premier roman de Bruno Lottin. Une fresque poétique, un voyage intérieur, une ode à la liberté. En librairie le 10 juillet aux éditions Campanile. Une exclusivité Blue Radio.